Chaque année, des dizaines de millions de personnes se rendent aux urnes pour voter pour le candidat de leur choix. Parfois, il s'agit de voter pour un candidat. D'autres fois, c'est un vote contre un candidat. Nous avons tous entendu des slogans tels que « Votez pour un tel ou un tel ». Pour un meilleur avenir, c'est un candidat auquel vous pouvez faire confiance. Il faut y croire. Oui, nous le pouvons. Mieux reconstruire. Le changement, c'est maintenant. Nous pouvons faire mieux. Il est dans la nature humaine de vouloir faire entendre sa voix. Et la démocratie, sous une forme ou une autre, est ancrée en nous dès notre plus jeune âge. Certains candidats sont élus pour empêcher le pays de se retrouver en guerre, mais finissent souvent par se retrouver en guerre. Qu'il s'agisse d'un pays dirigé par un roi, un dictateur ou un élu, des événements indépendants de leur volonté viennent souvent ébranler leur pouvoir. Les États-Unis sont une république démocratique où les citoyens chérissent leur droit de vote dans le choix de leurs dirigeants. Le 19 novembre 1863, l'ancien président des États-Unis Abraham Lincoln prononça son discours célèbre à la suite de la bataille de Gettysburg en Pennsylvanie pendant la guerre civile américaine. C'est à nous, les vivants, de nous vouer à l'œuvre inachevée que d'autres ont si noblement entreprise. C'est à nous de nous consacrer plus encore à la cause pour laquelle ils ont offert le suprême sacrifice. C'est à nous de faire en sorte que ces morts ne soient pas morts en vain. À nous de vouloir qu'avec l'aide de Dieu, notre pays renaisse dans la liberté. À nous de décider que le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, ne disparaîtra jamais de la surface de la terre. Oui, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, est considéré comme la façon dont le gouvernement devrait être. Et bien que d'autres nations n'utilisent pas les mêmes mots, le gouvernement par le peuple est dans le cœur de beaucoup. Mais existe-t-il un meilleur moyen de faire? Non seulement il existe une meilleure façon de faire, mais cette meilleure façon de faire est sur le point de voir le jour. Restez à l'écoute. Je vous souhaite chaleureusement la bienvenue de la part de tous les membres du Monde de Demain. Aujourd'hui, je vais vous montrer à partir de la Bible qu'il existe une meilleure solution que le gouvernement du peuple et par le peuple. Je vous offrirai également une ressource gratuite qui explique la nature et la source de cette solution. Préparez donc de quoi écrire pour que vous puissiez commander notre brochure gratuite facile à lire. Croyez-vous au véritable évangile ? Avez-vous réalisé, chers amis, que l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle que Jésus-Christ a proclamée pendant 3 ans et demi avant sa crucifixion, est un message concernant un nouveau gouvernement à venir? Pourquoi ce message biblique n'est-il pas enseigné dans les églises d'aujourd'hui? Pour comprendre, il faut avoir une vue d'ensemble. Les tentatives chaotiques de l'humanité pour se gouverner elle-même commencèrent dans le jardin d'Éden. Dieu plaça dans ce paradis 2 arbres ayant une grande signification symbolique. L'un d'eux symbolisait l'homme se tournant vers Dieu pour choisir la manière divine de vivre, pour distinguer le bien du mal. S'il choisissait cet arbre, la vie éternelle suivrait. L'autre arbre symbolisait l'homme qui s'érigeait en faux Dieu pour déterminer par lui-même le bien et le mal. Existe-t-il un rapport entre ces arbres et le sujet d'aujourd'hui? Tout à fait! Lorsque j'obtins mon diplôme à l'Ambassadeur Collège en 1969, notre album de promotion décrivait les résultats des tentatives de l'homme pour construire un monde séparé de Dieu. Il définissait l'éducation comme, et je cite, « la mère qui a engendré les scientifiques, les capitaines d'industrie et d'entreprise, les politiciens et les dirigeants, les leaders de la société moderne et les théologiens ». Fin de citation. Mais quels sont les résultats de la mère de l'humanité, ces systèmes d'éducation ? Un monde malade, chaotique et violent. Au sujet du gouvernement, notre album de promotion expliquait « Le monde moderne a produit 3 formes de gouvernement plus ou moins nouvelles. Chacune promet la paix, le bonheur et la prospérité à son peuple. La démocratie de type américain et britannique, le socialisme moderne de type suédois et français et le communisme athée. Tous 3 reposent sur la théorie selon laquelle chaque individu a le droit de partager les résultats de la science, de l'industrie et de la vie moderne. Tous 3 reposent sur un système industriel et sur la diffusion de l'éducation. Mais que constatons-nous en réalité? Nous trouvons quelques chefs d'État qui recherchent sincèrement la paix et l'amélioration des conditions de vie de leur peuple. Mais aucun n'apporte la paix parce qu'aucun ne connaît le chemin de la paix. Mais trop souvent, nous trouvons aussi le contraire. Nous trouvons des hommes égoïstes, cupides, d'une vanité démesurée, ambitieux dans leur soif de domination, complotant pour mettre la main sur l'accélérateur du pouvoir afin de promouvoir leurs intérêts personnels et de gagner de l'argent. Nous constatons que la corruption, l'immoralité, la tromperie, la malhonnêteté sont monnaie courante dans les hautes sphères. Les gouvernements promettent la paix, mais ils apportent la guerre. Il ne fait aucun doute que certains dirigeants sont meilleurs que d'autres, mais aucun n'apporte véritablement de solution durable aux problèmes de l'humanité. La solution aux problèmes de l'humanité ne peut se trouver dans les gouvernements des hommes, elle se loge dans la parole négligée de Dieu. Adam choisit le mauvais arbre et l'humanité suivit son exemple depuis lors. Mais comme nous le lisons dans la Genèse, Adam et Ève furent influencés par un être spirituel séducteur et persuasif. Il ne s'agit pas d'un personnage mythique, c'est le Dieu de ce monde. Cela vous surprend-il, chers amis? Jésus le désigna comme tel à 3 reprises au cours de la nuit où il fut trahi. Par exemple, dans Jean au 12e chapitre et au verset 31, il dit « Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. » Puis dans Jean 14 et au verset 30, Jésus dit « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. » Bien qu'il n'ait pas mentionné Satan ou le diable par son nom, il est clair de qui Jésus parlait. L'apôtre Paul fit également référence à Satan comme le dieu de ce monde dans 2 Corinthiens chapitre 4 et versets 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et comment oublier cette déclaration puissante sur l'identité de celui qui dirige le cours de ce monde? Éphésiens chapitre 2, versets 1 et 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Oui, le prince de la puissance de l'air, c'est Satan le diable qui dirige le cours de notre monde et il influence notre approche de la science, des affaires, du divertissement, du gouvernement et bien sûr même de la théologie et de la religion. Et cela inclut le christianisme dominant, car comme nous le lisons dans 2 Corinthiens au 11e chapitre et le verset 4, « Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Et au cas où cela ne serait pas assez clair, Paul poursuit au verset 14 et 15. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Cette compréhension de l'identité du Dieu de cette ère, qui dirige le cours de ce monde, explique ce que nous voyons tout autour de nous. Elle explique la confusion, la haine, la dégénérescence, l'égoïsme et la cupidité, et les guerres sans fin. Mais la Bible nous donne de l'espoir. L'évangile de Jésus-Christ est bien plus que le récit de sa mort, de son ensevelissement et de sa résurrection. Oui, c'est important, mais il est venu avec un message d'espoir pour ce monde troublé qui va bien au-delà de ce que vous entendez lors des prêches du dimanche matin. Je pourrais continuer à parler des menaces existentielles qui pèsent sur notre monde. Nous en entendons beaucoup parler et nous les voyons tout autour de nous. Cependant, le message que Jésus proclama était celui d'une bonne nouvelle. Oui, il parla aussi de très mauvaises nouvelles qui surviendraient avant son retour. Il dit que la situation deviendrait si grave qu'à moins qu'il ne revienne pour mettre fin à notre folie, toute vie serait détruite. C'est ce que Jésus-Christ dit dans sa fameuse prophétie de la montagne des Oliviers, au 24e chapitre de Matthieu, à partir du verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. La bonne nouvelle, c'est qu'il interviendra pour nous sauver de nous-mêmes. Le message de Jésus était essentiellement axé sur l'espoir, la bonne nouvelle de l'établissement de son royaume. La majeure partie de son ministère était axée sur le royaume de Dieu. Ce n'est que vers la toute fin de son ministère qu'il parla de sa mort et de sa résurrection. Ce fait est démontré dans notre brochure gratuite intitulée « Croyez-vous au véritable évangile ?» Ne l'acceptez pas simplement parce que je le dis, prouvez-le par vous-même à partir des pages de la Bible. Notre ouvrage « Croyez-vous au véritable évangile ?» vous aidera à le faire. Saviez-vous que l'expression « royaume de Dieu » est mentionnée 70 fois dans le Nouveau Testament ? Et Matthieu utilise l'expression « royaume des cieux » 33 fois supplémentaires. Il y a d'autres références à l'évangile du royaume, ou simplement au royaume. Ne devrions-nous pas prêter attention à quelque chose qui est mentionné plus d'une centaine de fois par Jésus et les apôtres ? Nous verrons ce que Jésus entendait par le message du royaume, mais voyons d'abord ce qu'il n'entendait pas. Comme je l'expliquais dans une émission précédente sur l'évangile que Jésus proclama, je déclarai ce qui suit. Dans le Sermon sur la montagne, considéré comme le cœur du message de Jésus à l'humanité, nous trouvons ce que l'on appelle les béatitudes ou les belles attitudes. Nous lisons dans Matthieu chapitre 5 et le verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Beaucoup pensent que cela signifie que nous allons au paradis, mais deux versets plus loin, au verset 5, nous lisons ce qui suit. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Cela pose un problème. Les pauvres en esprit vont-ils au ciel, tandis que les humbles de cœur héritent la terre? De quoi s'agit-il, le ciel ou la terre? La réponse se trouve dans la signification du terme « le royaume des cieux ». L'évangile de Matthieu utilise ce terme. Mais il utilise aussi, comme nous le voyons au chapitre 6 et au verset 33, le terme « royaume de Dieu ». Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous constatons également que Matthieu utilise les deux termes « royaume des cieux » et « royaume de Dieu » de manière interchangeable. C'est le cas au chapitre 19, au verset 23 et 24. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Il est intéressant de noter que les autres auteurs des évangiles, Marc, Luc et Jean, n'utilisent jamais, pas même une seule fois, l'expression « royaume des cieux ». Ils n'utilisent que l'expression « royaume de Dieu ». Et dans le grec original, à partir duquel le Nouveau Testament fut traduit, les mots « ciel » et « Dieu » sont très différents. Ils ne peuvent pas être confondus. Ainsi, lorsque Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux », et deux versets plus loin, « Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre », nous devons examiner de plus près la signification des termes « royaume des cieux » et « royaume de Dieu ». Quelle est la différence, s'il y en a une, entre les deux ? Et quel rapport y a-t-il avec la récompense de ceux qui seront sauvés après la mort ? Permettez-moi de répondre à ces questions simples. L'expression « royaume de Dieu » signifie-t-elle que le royaume est en Dieu ? Ou bien cette expression indique-t-elle que le royaume appartient à Dieu ? Oui, il s'agit du royaume de Dieu et non d'un royaume en Dieu. Le royaume des cieux et le royaume de Dieu sont interchangeables et désignent l'appartenance, pas l'emplacement. L'espoir renaît sans cesse pour ceux qui sont à la recherche du prochain homme politique qui serait capable d'apporter la paix et la prospérité à tous ses concitoyens. Bien sûr, certains hommes ou femmes d'État font un meilleur travail que d'autres, mais le bilan global du gouvernement du peuple et par le peuple en déçoit plus d'un. Ne vous méprenez pas. Sir Winston Churchill n'était pas loin de la vérité lorsqu'il déclara « Beaucoup de formes de gouvernement ont été testées et seront testées dans ce monde de péché et de malheur. Personne ne prétend que la démocratie est parfaite ou omnisciente. » En effet, on a pu dire qu'elle était la pire forme de gouvernement à l'exception de toutes celles qui ont été essayées au fil du temps. Mais existe-t-il une meilleure voie ? sommes-nous laissés à nous-mêmes pour choisir le prochain grand espoir? Et nous devons nous demander si c'est vraiment la majorité qui choisit nos dirigeants. Comme nous l'avons vu dans la partie précédente de cette émission, il existe un esprit puissant qui dirige le cours de ce monde. Notez-le à nouveau dans le chapitre 2 des Éphésiens, au verset 1 et 2. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Cependant, nous devons également reconnaître que Dieu établit et renverse des dirigeants afin d'accomplir ses desseins. Pensons-nous vraiment que nous pouvons déjouer les plans de Dieu? Daniel 2 et au verset 20 et 21. Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force, c'est lui qui renverse et qui établit les rois. » Jésus-Christ nous offre une meilleure voie que le gouvernement du peuple et par le peuple. Le royaume de Dieu est le gouvernement de Dieu, comme nous le voyons dans le chapitre 7 de Daniel. Ce chapitre commence par décrire quatre empires ou royaumes qui régneraient sur le monde tels des bêtes sauvages. Remarquez l'explication donnée à Daniel concernant ces quatre bêtes au verset 17 et 18. Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ces mêmes quatre royaumes, d'ailleurs les termes roi et royaume sont utilisés de manière interchangeable dans la Bible, sont mentionnés dans le deuxième chapitre de Daniel, où le roi Nebuchadnezzar vit une statue géante dans un songe des plus saisissants. Daniel fut appelé pour lui expliquer la signification de ce songe. Remarquez son interprétation. « Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire. C'est toi qui es la tête d'or. » Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume, qui sera d'airain, et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. Il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Ces quatre royaumes sont aussi les quatre bêtes décrites dans Daniel 7. Et dans les deux cas, le quatrième royaume continuerait sous une forme ou une autre jusqu'à l'avènement du Messie, qui écrasera ce royaume et donnera le pouvoir à un peuple très différent. Remarquez l'explication de la conclusion du songe de Nebuchadnezzar à partir du verset 41. « Et comme tu as vu les pieds et les orteils, en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. » L'évangile de Jésus-Christ est la proclamation la plus importante de l'histoire du monde. Mais l'esprit de la plupart des personnes professant la foi chrétienne est aveuglé par le Dieu de ce siècle. Pourtant, la Bible est abondamment imprégnée de ce message. Notez ce que Jésus dit dans Luc au 4e chapitre et au verset 43. « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Y a-t-il un rapport avec vous? Absolument! Dans la parabole des mines, Jésus décrit un noble, qui le représente lui-même, se rendant dans un pays lointain, c'est-à-dire au ciel, pour y recevoir un royaume à titre personnel. Nous lisons cette cérémonie de couronnement dans le chapitre 7 de Daniel, au verset 13 et 14. Notez-le et cherchez-le, Daniel 7 et les versets 13 et 14. Vous pouvez également commander notre ouvrage gratuit intitulé « Croyez-vous au véritable évangile ?» dans lequel vous trouverez ce passage expliqué et bien d'autres. Prouvez-le par vous-même. Daniel 7 et au verset 27 continue en faisant cette profonde déclaration. « Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints, c'est-à-dire les serviteurs du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Lorsque Jésus reviendra ici-bas, il désignera ceux qui gouverneront la terre, comme nous le lisons dans la parabole du Christ sur les mines. Remarquez-la dans le chapitre 19 de Luc. Le premier vint et dit « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Fini la politique politicienne. Plus de gouvernement du peuple et par le peuple. Cependant, ce sera bien un gouvernement pour le peuple, pour tous les peuples, et il sera juste, compatissant et apportera la prospérité à tous. C'est l'évangile que Jésus apporta, un message sur un gouvernement futur, un gouvernement dont vous pouvez faire partie. Imaginez un peu. Développez dès à présent le caractère de Jésus-Christ et contribuez à apporter la paix et la prospérité à tous lorsqu'il établira son royaume à son retour.